Bonjour mes frères et sœurs. Je voulais vous dire que notre frère Philippe est rentré j'allais dire du Kenya. Il est rentré de Guinée où il a travaillé pour Dieu pendant un mois et il s'adressera à vous dimanche. Il vous racontera ce qu'il a fait là-bas. Et déjà hier soir, nous en avons parlé. C'est vraiment magnifique. Mais là, pour tout de suite, on va commencer à écouter ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous. Je vous demande de prendre vos Bibles et de lire dans Jean chapitre 14 et on va commencer verset 18. C'est Jésus qui parle, il n'a pas encore été crucifié et il explique: Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviendrai vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Amen. Que Dieu soit béni pour sa parole. Frères et sœurs, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Jésus a dit à ses disciples qu'il partirait. Il est parti le jour de l'ascension. Il est monté au ciel. Voilà. Il a dit, vous ne me verrez plus. Voilà. Encore un peu de temps et vous me verrez. Il est revenu. Il est revenu. Vous ne savez pas? Il est revenu. Il l'a fait le jour de la Pentecôte. Il est revenu le jour de la Pentecôte. Il est revenu, il a dit, je reviendrai, je paraphrase. Hein. Le monde ne me verra pas parce qu'il est aveugle, mais vous, vous me verrez. Parce que je serai en vous. Par l'Esprit Saint, je serai en vous. Et vous voyez, Jésus est bel et bien revenu. Et il vit en nous, dans ceux qui croient en lui. Il est venu sous une autre forme. L'apôtre Paul dit, ceux qui ont connu Jésus selon la chair ne le connaissent plus de cette manière. On connaît Jésus selon l'esprit maintenant. Parce qu'il est l'esprit qui vit en nous. Il est venu habiter dans ses disciples le jour de la Pentecôte. Et il vit toujours, et cela jusqu'à la fin du monde, avec et même en nous. Est-ce que vous avez pensé à ça? Alors, qu'est-ce que les gens voient quand ils vous voient? Ils voient des bonhommes, des bonnes femmes, voilà. Qu'est-ce que les gens du monde voyaient quand ils voyaient l'apôtre Paul? Ben, ils voyaient un bonhomme qui était comme eux, hein. Mais en réalité, ce n'était pas Paul, c'était Christ en Paul. Paul le dit, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et voilà pourquoi Paul pouvait dire et faire des choses si extraordinaires. Parce que Christ vivait en lui, mais il savait ce qu'il avait à faire et à dire parce qu'il connaissait les paroles de Jésus. Pas seulement l'Esprit, mais les paroles de Jésus. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler les paroles de Jésus. Mais comment voulez-vous qu'il vous les rappelle si vous ne les connaissez pas? Et aujourd'hui, c'est tout à fait pareil. Pour tous les chrétiens vraiment remplis de l'Esprit de Jésus et qui connaissent la parole. Souvenez-vous, les théologiens, pas tous, mais la plupart des théologiens ont été les ennemis de la vraie Église. Parce qu'ils ont transformé la vérité en philosophie, parce qu'ils ont transformé la parole de Dieu en dogme, en credo, en doctrine, au lieu de laisser Jésus parler au travers de ceux qui sont remplis de l'Esprit. Ce que nous lisons dans la Bible a la même autorité que si Jésus était en chair devant nous. Si vous aviez vécu il y a 2000 ans, vous auriez entendu Jésus dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est la même chose quand vous lisez que Jésus dans la Bible, quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est la même chose, ça a la même autorité, ça a la même puissance. Il n'y a pas moins de puissance dans ce qui est écrit que dans ce que Jésus a dit quand il était sur la terre il y a 2000 ans. Et cette parole écrite, malheureusement, elle peut tuer. Pourquoi? Parce qu'on peut l'interpréter. C'est ce qu'ont fait les théologiens et tous ces espèces d'apprentis sorciers qui se nomment pasteurs et qui prêchent n'importe quoi, n'importe quelle ânerie. Mais l'esprit de cette parole est en vous. Et là, elle est vivante en vous, parce que vous vivez. Elle est vivante en vous, parce que vous vivez, elle est agissante en vous, parce que vous agissez. Elle agit au travers de vous, ou elle n'agit pas si vous ne faites rien. Quand vous parlez comme parle la Bible, vos paroles sont celles de Jésus qui vit en vous. Ce qui est écrit dans la Bible est semblable à son auteur. La parole, elle est éternelle, la parole de Dieu, ce que Dieu a dit. C'est éternel, c'est immuable, et c'est vivant en vous. En toi, mon frère, en toi, ma sœur qui m'écoute. Pas dans ton gourou, pas dans ton pasteur, pas dans ton apôtre, pas dans ton bishop, dans ton prophète ou de je ne sais quoi qui essaie de te faire croire qu'il est supérieur à toi. Jésus-Christ est vivant en toi. Sa parole est agissante et immuable en toi, au travers de toi, mon petit frère, ma petite sœur qui est humiliée dans les églises. Sa parole demeure éternellement Dieu, et ce qu'il dit dans la Bible, c'est un. Jésus sur la terre, il y a 2000 ans, était la parole de Dieu faite chair. Aujourd'hui, il est de nouveau dans la chair, parce qu'il vit en moi, il s'est incarné en vous et en moi. Est-ce que vous savez ça? Ou est-ce que c'est simplement pour vous un dogme, une croyance, mais qui n'a aucune efficacité? Vous voyez? Vous voulez grandir? Nourrissez-vous de ce que Jésus, les apôtres et les prophètes ont dit qu'on trouve dans la Bible. Quand vous tenez la Bible dans la main, vous tenez la parole de Dieu dans vos mains. Et si vous connaissez ce qui est écrit dans ce livre, la parole écrite est dans votre cœur, parce que vous la connaissez. Vous parlez de ces paroles, vous parlez ces paroles, vous prononcez ces paroles, sa parole est sur vos lèvres. Vous vivez de ces paroles, vous vivez les paroles, elle vit en vous par l'Esprit de Jésus qui est en vous. Il vous donne le pouvoir de vivre sa parole. La parole de Dieu, c'est votre force, c'est votre guérison, c'est votre protection, c'est votre pain de vie. La puissance de Dieu en vous. La parole, c'est Jésus. Jésus est en vous par son esprit et il ne peut agir que selon ce qu'il a dit il y a 2000 ans et qui se trouve dans la Sainte Bible. Je le répète, les quatre points de votre foi, ça doit être ça. Dieu est ce qu'il dit qu'il est dans la Bible. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes dans la Bible. Dieu peut faire ce qu'il dit dans la Bible. Dieu peut faire ce qu'il dit dans la Bible. Et vous, vous pouvez faire ce que Dieu dit que vous pouvez faire dans la Bible. Ne dites pas « Je suis pécheur, vous êtes pardonné ». Ne dites pas « Je suis malade, il vous a guéri à la croix ». Ne dites pas « J'ai peur de ceci, j'ai peur de ça ». Mais non, je ne crains rien, vous n'avez rien à craindre. Rien ne peut vous nuire. Dites la parole. Ce que Jésus dit, ça donne le calme au milieu de la confusion. Ça donne la victoire au sein de la défaite. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de défaite. Ça veut dire que vous aurez la victoire au sein de la défaite. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de confusion. Ça veut dire que vous aurez le calme dans la confusion. Regardez comment le monde est confus maintenant. Vous aurez la joie là où règne la désolation. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas désolé, bien sûr, mais vous aurez de la joie, une paix profonde, parce que Jésus donne une paix comme le monde ne donne pas. La Bible, ce n'est pas un bouquin. La Bible, ce n'est pas un livre ordinaire. Trop de soi-disant chrétiens traitent le fait de la rédemption comme si c'était une belle, une espèce de fable, une belle fiction. Non, c'est la réalité. Ils lisent la Bible, et surtout ils lisent des commentaires sur la Bible, ils chantent des hymnes qui louent la Bible, et en même temps, ils vivent sous la domination de l'adversaire, ils ne parlent que de leurs problèmes. Je vais souvent en Afrique. Je vous dis, les frères et sœurs, Après les réunions où il y a eu des aveugles qui retrouvent la vue, des paralytiques qui marchent, des toutes sortes de miracles extraordinaires, des sourds qui se mettent à entendre et à parler, des choses merveilleuses qui se passent au travers de mon ministère. Après, je me trouve très souvent autour d'une table avec une dizaine, une vingtaine de pasteurs et on mange le poulet ensemble. Savez-vous de quoi ils parlent? Croyez-vous qu'ils se réjouissent de ce qu'ils ont vu? Non. Ils parlent des démons. Oui, les démons ont fait ceci dans le village à côté. Oui, j'ai été attaqué par les démons, les démons, les démons, les... Mais ras-le-bol, les démons! Ils sont vaincus au nom de Jésus! Ils sont vaincus au nom de Jésus! Ils savent, eux, ils savent qu'ils sont vaincus au nom de Jésus. Et, mais c'est qui sait pas ça? C'est tous ces espèces de... Pardon. Ces pasteurs-là qui parlent que de la puissance des démons. Ah, mais alors ils parlent jamais de la puissance de Jésus qui vit en eux. Jamais ils parlent des anges. Jamais. Non, 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 les démons. Et puis vous avez les enfants des pasteurs qui sont là autour de la table et puis qui les écoutent, puis qui les regardent avec leurs grands yeux ouverts là. Et alors qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que la génération suivante sera comme cette génération, sinon pire. Ça sera les démons, les démons, les démons. Mais Jésus! Jésus est victorieux. Ah ça alors là, mon Dieu. Pourtant ils viennent de voir des miracles. Ils parlent de leurs doutes. Ils parlent de la puissance des démons. Ils parlent de leurs craintes, de leurs faiblesses. Voilà, ça les intéresse. Mais c'est incroyable. Alors que Jésus vit en eux, ils attristent le Saint-Esprit quand ils font ça. Et le Saint-Esprit se retire. C'est-à-dire Jésus se retire. Jésus en vous, il peut et il veut répondre à chaque besoin que vous avez, mais non seulement que vous avez, mais que l'humanité a. Il veut répondre aux besoins de l'humanité au travers de vous. C'est une grande responsabilité. Les chrétiens lisent et chantent la 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 au sujet de la rédemption, et puis ils parlent comme s'il s'agissait de la rédemption, comme si c'était une fable. Eh bien, c'est pour ça que les chrétiens sont des gens ordinaires. Ordinaires. J'ai vécu 18 ans en Suisse. Jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai jamais eu un chrétien qui est venu me témoigner. Jamais en 18 ans. Il a fallu que ce soit un gitan qui vienne de France, un homme illettré qui vienne de France pour prêcher. Avant, je n'avais jamais entendu quelqu'un me parler de Jésus-Christ intelligemment. Jamais. Jamais. Ils étaient où, ces chrétiens? Ah, ben après, je les ai vus. Ils étaient dans leur église. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, amen. Je me moque un peu, mais il y a de quoi. Il y a de quoi, mes frères et sœurs. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ils sont là, Seigneur, bénis-nous, garde-nous, protège-nous. Mes frères et sœurs, tout ça, ça changerait immédiatement si les chrétiens voulaient donner à la parole écrite la valeur qu'elle a. La même valeur qu'ils donneraient à Jésus s'ils l'avaient en face d'eux. Mais ils ne croient pas. Moi, je dis, ils ne croient pas. Ils disent, Christ vient en moi, Christ en moi, l'espérance de la gloire, mais ils n'y croient pas. Il n'y a qu'à écouter ce qu'ils disent à côté. Visiblement, on voit bien qu'ils n'y croient pas. Ils disent, nous sommes la tête et non la queue. Mais qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que le monde voit quand il regarde les chrétiens? Vous êtes la queue. Vous êtes en arrière. Vous êtes deux trains en retard. Vous êtes trois siècles en arrière. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il faut... Les chrétiens attendent un réveil en pensant que c'est les inconvertis qui vont se convertir. Non, 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 le réveil, c'est le réveil de l'épouse. L'épouse doit se réveiller, il est temps. Ah, les chrétiens. Alors oui, ça c'est extraordinaire. Vous dites à des chrétiens, je l'ai fait souvent ça dans les réunions, qui c'est qui veut être une vierge sage? Personne ne lève la main. Qui c'est qui veut être une vierge folle? Alors, pardon, excusez-moi. Qui c'est qui veut être une vierge folle? Tout le monde, il n'y a personne qui lève la main. Qui c'est qui veut être une vierge sage? Tout le monde lève la main. Moi, je dis, je veux être ni l'une ni l'autre, parce que toutes les deux, elles dorment. Je veux être la voix qui crie, l'époux, viens, réveillez-vous. Vous comprenez? Le jour de l'ascension, Jésus a été exalté. Cherchez dans le dictionnaire, cherchez vous-même, qu'est-ce que ça veut dire exalté? enlevé, exalté, apothéose. Lisez tout ça, cherchez tout ça, vous allez voir, vous allez être très étonné. Et puis il est revenu vivre en eux, en ceux qui croient en lui. Croire en lui, c'est aussi croire ce qu'il dit, c'est surtout croire ce qu'il dit. C'est pas seulement croire dans son histoire, dans son existence historique. Oui, il y a eu un homme qui s'appelait Jésus, ça sauve pas. Hein. Croire ce qu'il a dit, ça implique que nous témoignons de ce qu'il a dit en parole et en acte. En acte. Pas seulement en acte de charité, de bonté, de pardon, de machin. Oui, bien sûr, tout ça, oui. Mais aussi de puissance, de guérison. Mes frères et sœurs, toutes les promesses contenues dans ce merveilleux livre qu'est la Bible, toutes ces promesses sont votre propriété. Et la vie de ces promesses est en vous, c'est Jésus en vous. La foi en ce que Dieu dit, c'est la foi en Dieu. Si vous désirez augmenter votre foi, nourrissez-vous de ce qu'il a dit dans la Bible. Ne dites pas, Seigneur, augmente ma foi, il ne le fera jamais. Il augmentera votre foi quand vous commencerez à lire ce qui est écrit et à mettre en pratique ce que vous trouverez dans la Bible. C'est l'incrédulité envers ce qui est écrit dans la Bible, c'est l'incrédulité envers Dieu lui-même. Dites ce que Dieu dit. Satan ne peut pas résister à ça. Il ne peut pas résister à ça. Je voudrais lire avec vous le psaume 107, verset 20. Je le trouve. Le psaume 107, verset 20. Ah, dans ma Bible, il y a de plus en plus de photos. Il faut que je fasse un tri là-dedans. Verset 20. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Je lis un peu avant, dans le contexte. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, il les a délivrés de leur angoisse, il a envoyé sa parole et il les a guéris. Dites, Dieu a envoyé sa parole, Jésus, et Jésus vit en moi et il me guérit. Dites ça, plutôt que de vous plaindre tout le temps. Puis louez Dieu pour votre guérison, louez-le pour votre guérison. Même avant de l'avoir. Par contre, en confessant votre maladie, en parlant de votre maladie, vous restez malade. Vous avez beau dire « Jésus est celui qui me guérit, alléluia », mais après vous reparlez de nouveau de vos maladies, eh ben vous restez malade. Dites ce que Dieu dit, et même si vos sens disent le contraire, ce que Dieu dit a toujours le dessus. Croyez-le, mais croyez-le. Croyez-le et parlez comme ça. La parole de Dieu a toujours la victoire. Lorsque vous déclarez « Par ses meurtrissures, j'ai été guéri », vous liez les mains de Satan. Mais vraiment, il est vaincu. Il le sait. Il sait qu'il est vaincu. La parole de Dieu est la meilleure arme du monde que nous puissions employer contre Satan. Mes frères et sœurs, lors de la grande tentation au désert, Jésus n'a pas essayé de vaincre le Satan par d'autres moyens que de par le « Il est écrit ». Relisez Matthieu. Il est écrit. C'était l'arme que Jésus a utilisée chaque fois contre les assauts de Satan. Il est écrit. Jésus disait, en citant ensuite ce que Dieu avait dit dans les passages de l'Écriture, il est écrit, voilà. Et quels furent les résultats, mes frères et sœurs? Vous les connaissez bien. Le diable quitta, c'est ce qui est écrit, et les anges vinrent pour le servir. Matthieu 4, 11. Vous voyez, mes frères et sœurs, la victoire était complète et Satan était totalement vaincu. La seule arme employée par Jésus, ça a été la parole écrite, parce qu'elle triomphe toujours. Je vous donne ça aujourd'hui, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide à comprendre que ces choses sont vraies. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Au revoir.